Écriture dessinée classique. Bonjour à toutes et à tous. Les éditions Moulinsart poursuivent les coulisses d'une œuvre avec la sortie en janvier du Crabe aux pinces d'or, dernier livre en noir et blanc de Tintin qui a été donc remis en couleur pendant la guerre, c'était en 1943. Donc ce passage du noir et blanc à la couleur est très important, ça a modifié la perception qu'on a de l'œuvre d'Hergé. Et donc c'est vraiment le dernier passage de ces 9 premiers livres de Tintin qui sont ainsi mis en couleur par Hergé. La richesse de l'iconographie est toujours essentielle, d'autant plus que dans le Crabe aux pinces d'or, eh bien c'est l'arrivée du capitaine Haddock qui va tenir une place prépondérante dans la famille des personnages de Tintin, et Hergé est en pleine maturité, aussi bien sur le plan du scénario que sur le plan du dessin. Il y a une qualité de trait, une façon de donner une précision et une représentation d'une très grande qualité pour chaque case, chaque situation. Et il y a vraiment cette façon de nous amener dans la scène elle-même. Le passage de la partie noir et blanc à la partie couleur se fait avec moins de changements graphiques, puisque comme c'était un des plus récents, eh bien le dessin de Hergé avait déjà grandement évolué, et le passage à la mise en couleur est tout à fait intéressant à repérer et à suivre. Donc cette collection va se poursuivre avec L'étoile mystérieuse, qui sera donc le premier livre en couleur que Hergé va publier. Et donc ça, c'est une parution ce mois-ci. Et chaque volume de ces coulisses d'une œuvre Tintin Hergé, eh bien, c'est au prix de 20 euros pour ici 92 pages, c'est publié par les éditions Moulins. L'autre actualité est ce livre, cet essai d'Éric Verheust, Hergé Jacobs, du duo au duel, l'histoire d'une amitié créative. Voilà ce qu'on peut lire sur la deuxième de couverture. Pour la première fois, le destin des deux géants de la bande dessinée est retracé dans un seul ouvrage. C'est l'histoire fabuleuse de leur amitié créative, ébranlée par la rivalité du succès, mais jamais dissoute. De la fluidité narrative d'Hergé à la théâtralité hypnotique de Jacobs, les deux complices ont construit et enrichi, chacun à leur manière, le style ligne claire qui illumine toujours la bande dessinée. S'ils ont collaboré, ils ne venaient cependant pas du même monde. Jacobs était nourri de romans populaires et d'expressionnisme allemand, alors qu'Hergé s'inspirait des films burlesques américains et de l'humour anglais. L'univers de Jacobs est dramatique, baigné de clair-obscur, tandis que celui d'Hergé mêle aventure et humour. C'est donc une histoire unique que celle de cet ouvrage, mêlant affinité et différence de deux artistes. On a, et notamment grâce à ces coulisses d'une œuvre, beaucoup d'informations précises, complètes, sur la création de Tintin, sur ses coulisses de cette création. Et pour Jacobs, pour Black et Mortimer, on a eu également des essais importants, mais il y a surtout eu une reconnaissance qui s'est faite a posteriori, avec aussi des destinées très différentes sur les deux séries, puisque Hergé a toujours refusé qu'il y ait un Tintin après lui, après moi, disait-il, et Jacobs a laissé les responsables des éditions Black et Mortimer, qu'il avait créé quelques années avant de décéder, de faire ce qu'il souhaitait bon pour Black et Mortimer, et on a eu donc les reprises que l'on sait avec plusieurs couples d'auteurs. Il y a donc des destins qui vont être très liés, mais avec des parcours différents. Hergé crée Tintin en 1929 pour le petit 20e. Il y a 9 albums en noir et blanc qui paraissent. Ils seront adaptés à un format de 62 pages pour cause de pénurie de papier. Et donc, on a une collection en couleur qui démarre pendant la Seconde Guerre mondiale et qui vont vraiment être ceux par qui le succès va arriver, qui était déjà important avec le noir et blanc, mais là il va y avoir un développement et des ventes qui vont augmenter de façon très conséquente. Jacobs, lui, était illustrateur. Il était également auteur de bandes dessinées. Il avait aussi une envie d'être artiste lyrique, et c'est finalement le choix du dessin qui s'est imposé. Il a publié dans Bravo, par exemple, une reprise de Flash Gordon au moment où les bandes dessinées américaines étaient refusées en France. Et après la fin de l'épisode de Flash Gordon, il crée le Rayon U, toujours pour Bravo, et va avoir le regard d'Hergé qui va finalement rencontrer Jacobs. Ils vont s'entendre, une amitié va naître, et Hergé va engager Jacobs pour participer à la refonte de ses albums, et notamment le passage du Spectre d'Autocar à cette version couleur, et Jacobs se montre un très grand coloriste. C'est un des essais, une des parties très importantes, un des points importants de cet essai, c'est on parle vraiment de dessin, on parle vraiment de la façon dont ces deux auteurs ont pris une dimension dans la qualité de leurs traits. Comment, par exemple, Hergé a perfectionné ce trait, et on a une maturité, notamment dans Le Crabe aux pinces d'or ou Le Spectre d'Autocar, qui est d'une très grande importance. Jacobs, pour Blake et Mortimer, est beaucoup plus dans le doute. Il va participer avec Hergé à la création du journal Tintin avec deux autres auteurs, Paul Cuvelier et Jacques Laudy. Et donc Tintin et Blake et Mortimer vont vraiment être des phares de cette nouvelle revue de bande dessinée et qui contrebalance notamment le succès de Spirou et l'école de Marcinelle. La création de Tintin est importante parce que Hergé va donner une impulsion, va suivre la cohérence du journal, va demander aux auteurs qui seront cette revue d'adopter une façon de raconter, une façon de dessiner qui soit assez en cohérence avec celle qu'il a adoptée pour Tintin. Jacobs a du mal à se défaire de ce qu'il a mis en œuvre pour le premier diptyque, Le secret de l'Espadon, pour cette première histoire de Blake et Mortimer, et il va modifier son traitement, notamment des ombres avec l'estompe qui vont disparaître par la suite dans le mystère de la Grande Pyramide. Et l'influence d'Hergé est donc patente. Erik Verheust va vraiment explorer les parcours de chacun, comment leur amitié va évoluer, va se transformer, va être parfois distante, jamais rompue. Et on a vraiment aussi cette importance de la qualité de la mise en couleur de Jacobs dans l'œuvre de Tintin, et l'exemple donc du Spectre d'Autocar est extrêmement pertinent. Et là, ce travail de Jacobs pour Hergé va se faire avant les studios Hergé qui seront créés en 1950 sans Jacobs, avec d'autres scénaristes, auteurs, dessinateurs et coloristes qui vont poursuivre la mise en œuvre de produits dérivés, mais aussi de refonds, de dessins, puisque Hergé était, à cause de sa surcharge de travail, est tombé en grande dépression. Et là aussi, Éric Verhoeven montre vraiment en détail ce que représentait pour Hergé cette surabondance de travail et comment il a craqué. C'est à la fois intime, sans être voyeur, et cette précision que l'on trouve dans l'essai est tout à fait pertinente, puisque c'est vraiment la première fois que Hergé et Jacob sont regardés conjointement. La qualité de l'iconographie, l'importance des citations qui éclairent avec une grande précision ces parcours conjoints de Hergé et de Jacobs. L'écriture en chapitres assez courts qui permettent d'avoir une grande fluidité et de rentrer de manière précise dans cette amitié, fait que cet essai de Éric Verhoeven est éclairant. Hergé Jacobs, du duo au duel, l'histoire d'une amitié créative, d'Éric Verhoeven. C'est publié par les éditions Casterman et les 192 pages de cet essai sont au prix de 29 euros. Et nous finissons en musique avec cet air des bijoux de Gounod, popularisé par l'histoire de Tintin, à la fois le spectre de Tocard et les bijoux de la Castafiore, et qui rappelle ce parcours lyrique, cet attachement à l'opéra d'Edgar P. Jacobs.
Merci, José.